Bon lundi à vous sur Bike FM, il est 13h, tout de suite votre rendez-vous consacré à l'actu locale, c'est dans les parages. Aujourd'hui, on part à la découverte des zones humides, en compagnie de Stéphanie Robinet du conseil départemental de la Nièvre.
Bonjour Stéphanie Robinet.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale adjointe d'aménagement et développement des territoires pour le conseil départemental. On va évoquer ensemble les zones humides, des îlots de fraîcheur face au changement climatique. C'est comme ça que moi, je vais les appeler. Je ne sais pas si vous allez peut-être les compléter cette définition. Des lieux naturels stratégiques, longtemps délaissés, qui maintenant sont recréés ou préservés à l'échelle européenne et donc nationale et donc départementale. On verra ça ensemble. On va évoquer évidemment leur place ici dans la Nièvre et leur but. Avant, j'aimerais vous expliquer ce qu'est une zone humide, finalement, parce que une zone humide, finalement, ça veut dire beaucoup de choses. Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est une zone humide ?
Alors, une zone humide, comme son nom l'indique, c'est une zone qui est humide, c'est-à-dire qui, à un moment de l'année, au moins, regorge d'eau. On a l'habitude de comparer les zones humides à une éponge et ça fonctionne véritablement comme une éponge, c'est-à-dire qu'elle se gorge d'eau quand il y en a trop et elle relargue l'eau quand il n'y en a pas assez. Autrement dit, ce sont des zones qui sont essentielles à la régulation de l'eau, notamment en lien avec les rivières, puisqu'elles permettent de réguler les trop pleins d'eau et de relarguer de l'eau, comme quand on appuie sur une éponge, en période de sécheresse. Et à ce titre-là, elles jouent un rôle essentiel en termes de régulation des crues. Ça, c'est leur première définition. Leur deuxième définition, c'est que elles sont aussi caractéristiques parce qu'elles sont des réservoirs de biodiversité. Il y a un nombre considérable d'espèces, que ce soit végétales ou animales, qui, à un moment donné de leur cycle de vie, ont besoin de l'eau. C'est par exemple le cas pour nombre d'insectes qui ont besoin de l'eau à l'état larvaire, mais c'est aussi le cas de toute une végétation qui se trouve bien les pieds dans l'eau.
C'est ces zones humides qui ont été étudiées notamment pour travailler l'atlas de la biodiversité, par exemple dans la Nièvre ?
Entre autres, puisque ce sont des espaces très riches en biodiversité et donc en effet, elles ont été étudiées dans le cadre de l'atlas de biodiversité.
Qu'est-ce qui différencie une zone humide d'une mare ?
Une mare, en fait, c'est un type de zone humide. Puisque ce que je disais tout à l'heure, à l'instant, c'est qu'une zone humide, elle est caractérisée par le fait qu'elle a de l'eau dans son espace à un moment donné de l'année. Donc, soit elle est humide tout le temps, la mare, soit elle est humide à un moment de l'année, c'est la mare temporaire, si je continue cet exemple, ou alors c'est une zone humide qui n'apparaît pas à l'œil nu humide, mais qui l'est quand même dans la typologie du sol. Et là, je pense par exemple aux tourbières, et notamment aux tourbières du Morvan, qui sont un type de zone humide très fragile et très riche.
Finalement, il y a beaucoup de types de zones humides, il y en a autant qu'on veut presque même.
Oui,
finalement.
Tout à fait. Alors, il n'y en a pas autant qu'on veut, mais en fait, il y en a autant qu'il y a. En fait, il y a deux choses qui caractérisent les zones humides. C'est à la fois la présence de l'eau et la durée de la présence de l'eau dans l'année et en profondeur dans le sol. On parle de zones humides temporaires ou de zones humides tout au long de l'année, pérennes, l'exemple des mares qu'on vient de citer. Et puis aussi, ça dépend de la nature du sol. Par exemple, j'évoquais à l'instant les tourbières, mais un type de zone humide qui n'existe pas dans la Nièvre, ce sont les zones humides arrière-dunaires dans les dunes de la façade atlantique.
D'accord, oui, forcément, selon la géolocalisation, le paysage aussi du territoire, les zones humides peuvent varier. Et on ira tout à l'heure aussi sur les zones humides et leur pérennisation, qui ont certainement un impact avec le réchauffement climatique. On va aller dessus tout à l'heure. Comment on identifie une zone humide ? Est-ce qu'il y a une méthodologie type pour identifier une zone humide ?
Oui, il y en a. Enfin, il y a deux grands critères. Il y a le taux d'humidité dans le sol, et donc ça se fait par des prélèvements, des échantillonnages dans le sol pour identifier quel caractère d'humidité on a dans le sol. Autrement dit, le degré d'humidité qu'il y a dans le sol. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est la nature de la végétation qu'on trouve sur les zones humides. Étant entendu que les scientifiques ont classé la végétation en fonction de leur milieu optimal, et donc si on trouve telle ou telle plante, par exemple des roseaux, par exemple des joncs, par exemple une sorte de rumex, par exemple une sorte d'orchidée, par exemple, etc., etc., on sait que ces typologies de végétation poussent dans une zone humide, et donc elles permettent de caractériser les zones humides. Donc on caractérise une zone humide soit parce que le sol est hygromorphe, soit parce que la végétation est une végétation typique des zones humides, soit les deux.
L'objectif, c'est d'amener le moins possible la main humaine sur ces eaux humides. Sur ces zones humides, on parle de restauration, mais l'idée, c'est plus de les préserver comme elles sont plutôt que de les restaurer.
Mais en fait, ça dépend de leur état. On dit qu'une zone humide est en bonne santé si elles sont caractéristiques des deux critères que je viens de donner, c'est-à-dire qu'elles ont un sol gorgé d'eau, et ou qu'elles ont une végétation typique des zones humides. Et quelquefois, on est sur des zones humides qui sont dites dégradées, c'est-à-dire qu'elles ont un sol qui est hygromorphe, mais elles n'ont plus la végétation typique. Et c'est le cas, par exemple, des peupleraies de fond de vallée.
D'accord.
Les peupleraies sont des anciennes prairies le long des rivières ou des fleuves. On en a pas mal en Val-de-Loire, par exemple. Donc, des prairies qui ont été, à un moment donné, plantées en peuplier, parce que le peuplier est un arbre qui boit beaucoup d'eau, qui a besoin d'eau, qui a été une industrie du bois assez intéressante pour faire des allumettes et des cagettes. Sauf que le problème du peuplier, c'est que comme il boit beaucoup d'eau, il a tendance à assécher la zone humide. Et en plus, comme il amène de l'ombrage sur la prairie, il a tendance à couper la végétation herbacée de la lumière. Et donc, sous les peupliers, on ne trouve plus la végétation typique des zones humides. Donc, on dit que c'est une zone humide dégradée. Donc là, pour restaurer la zone humide, on a besoin de couper les peupliers pour retrouver de la lumière et de l'eau. Donc là, typiquement...
Jouer sur la nature pour en préserver une autre.
Oui, c'est ça, on peut dire ça.
On peut abréger comme ça.
Oui, finalement. On peut dire ça, tout à fait.
Vous intervenez essentiellement sur des zones humides qui sont sur des lieux publics, j'imagine, sur du territoire public. Est-ce que vous pouvez aussi intervenir chez des personnes qui, par exemple, ont un grand domaine ou alors ont dans leur terrain un lieu qui peut s'apparenter à être une zone humide ?
Alors, on intervient pas directement au sens où on fait pas des travaux avec les outils du département, les équipes du département quand on est chez quelqu'un.
Les accompagner.
Par contre, on peut accompagner, sensibiliser les propriétaires privés à la bonne gestion d'une zone humide pour que elle ait le maximum de biodiversité caractéristique de cette zone humide.
On va se concentrer sur ces zones humides dans la Nièvre, ces zones humides nivernaises. Vous disiez tout à l'heure, on en parlait un petit peu hors antenne avant, que vous ne saviez pas exactement combien il y en a, mais est-ce que vous avez une échelle ?
Alors en fait, ça dépend de ce qu'on... Enfin, combien, c'est compliqué de répondre à cette question parce que il y a des zones humides qui font je sais pas, 300 mètres carrés si on reprend l'exemple de la mare tout à l'heure, et puis des zones humides qui font plusieurs dizaines d'hectares parce qu'on est sur les tourbières du Morvan ou parce qu'on est sur les zones alluviales de la Loire. Ce que je peux vous dire, c'est que le département est responsable, entre autres politiques publiques qui est menée par le département, de la préservation de la biodiversité des milieux naturels. Et à ce titre-là, on préserve les milieux naturels qui sont les plus fragiles, dont les zones humides. Et je dirais que les zones humides, c'est une petite moitié des milieux naturels qui sont identifiés par le département comme ayant besoin d'être préservés et ou valorisés au sens de l'ouverture au public pour permettre aux Nivernais de se balader dans ces espaces, dans ces zones humides et de les préserver.
Et montrer au public aussi leur utilité à travers certaines choses. La Nièvre a connu des inondations il n'y a pas très longtemps, maintenant presque un an on va dire, notamment sur la zone La Charité, la Marche par là-bas. Ces zones humides, elles jouent aussi, elles ont un rôle dans cette prévention des inondations.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est leur rôle d'éponge. C'est-à-dire que quand il y a une inondation, ça veut dire qu'il pleut trop pendant un court laps de temps et que le sol n'a plus la capacité d'absorber l'eau qui tombe. Et donc, les zones humides, elles jouent bien ce rôle d'éponge. On voit bien, quand on met une éponge sur une tache d'eau, elle absorbe l'eau. Et puis ensuite, quand elle s'assèche, elle relargue l'eau. Et vraiment, les zones humides, ça joue ce rôle-là. Et donc, dans un contexte de changement climatique où un des impacts du bouleversement climatique, c'est des périodes trop sèches ou trop pluvieuses, le rôle d'éponge est essentiel pour répondre à ce trop sec ou trop pluvieux.
Le réchauffement climatique, il a un impact sur ces zones humides, mais également sur la vie de nombreux agriculteurs. Et ces zones humides participent aussi à aider les agriculteurs dans leurs besoins d'eau essentiellement.
Dans leurs besoins d'eau et dans leurs besoins d'herbe. Parce qu'en fait, les zones humides, c'est typiquement le cas des prairies alluviales du Val de Loire, du Val d'Allier, sont des espaces qui s'assèchent en dernier, en période de forte canicule. Et donc, ce sont des espaces où il y a encore de l'herbe pour faire pâturer les vaches. Et donc, en ce sens, ce sont des espaces très importants pour l'agriculture névernaise.
C'est le cas partout sur le département, que ce soit dans la région plus Morvan et le territoire Val de Loire, Charitois.
C'est idem sur les deux territoires, avec, je dirais, une prédominance sur plutôt le Val de Loire, parce que les températures extrêmes sont plus prégnantes en Val de Loire. Et ce que je raconte là pour la Nièvre, c'est vrai pour tout le territoire métropolitain.
Et d'ailleurs, les zones humides, ce qui revient beaucoup maintenant dans le débat public de ces zones humides, c'est comment l'urbanisation a envahi finalement ces zones humides. Et est-ce que cet impact, il est un petit peu moins ressenti dans la Nièvre? Dans un territoire qui reste quand même très rural encore.
Oui, bien sûr, parce que il y a eu moins d'urbanisation, donc moins d'imperméabilisation des zones humides. Ce qui, on l'a pas dit encore, mais une des problématiques des zones humides, c'est qu'elles ont beaucoup disparu. Et elles ont beaucoup disparu pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elles ont longtemps été vécues, je dirais jusque dans les années 1950, comme des zones à assécher pour des raisons sanitaires. Les zones humides, c'était le cas par exemple en France, du territoire comme les étangs de la Brenne, comme la Camargue encore aujourd'hui, étaient des zones vécues comme apportant des maladies parce que beaucoup de moustiques et donc le palu, et donc, enfin non pas le palu, mais des maladies liées aux moustiques et donc des fièvres. Et donc les zones humides étaient asséchées. Donc on a enlevé cette caractéristique humide de ces milieux naturels. Ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est en effet les zones humides, par définition, presque tout le temps, ce sont des zones qui sont plutôt plates, plutôt en fond de vallée, autrement dit des espaces où il est facile de s'installer, d'urbaniser les espaces et donc d'imperméabiliser. Je le disais tout à l'heure, les zones humides sont des éponges pour peu qu'il y ait une surface de contact entre la terre et la pluie qui tombe. Si entre la terre et la pluie qui tombe, on met une surface qui imperméabilise, du type enrobé, du type asphalte, du type construction de bâtiments divers et variés, la zone humide ne peut plus jouer son rôle d'éponge.
À l'arrivée de l'été, là, il faut trouver le bon juste milieu entre l'attrait touristique que peut avoir ces zones humides, parfois, et l'importance de les préserver et que l'humain y vienne le moins possible.
Non, je pense que le fait que les humains y viennent pour se balader, c'est pas un sujet qui fragilise les zones humides, sauf les zones humides extrêmement fragiles. Par exemple, des tourbières qui ne supporteraient pas le moindre piétinement lié à des flux touristiques. Alors après, on est dans la Nièvre, on ne parle pas de millions de gens qui viennent sur des surfaces humides. Mais en effet, par exemple, sur la Camargue, qui est une des zones humides d'importance en France.
Ouais. Mais qui est aussi un lieu touristique fort.
C'est pour ça que j'en parle là, c'est que c'est un lieu touristique fort et donc pour préserver ces zones humides et notamment les oiseaux qui nidifient dans ces zones humides, il y a des espaces qui peuvent être dans lesquels on peut se balader et d'autres dans lesquels on ne peut pas se balader pour préserver ces zones humides.
Il y a le programme européen Green Deal qui est en route en ce moment, hein, d'ailleurs il se termine cette année ou l'année prochaine. Il y a également le plan national des milieux humides 2022-2026. Comment le département travaille justement avec ces plans-là ?
En fait, ces plans, ils disent la même chose. Ils disent que, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, les zones humides sont des zones importantes à préserver et que donc il faut se donner le moyen de les préserver. Se donner les moyens de les préserver, c'est garantir la typicité de ces zones humides, garantir la capacité de la végétation et de la faune de vivre le mieux possible dans ces espaces. C'est garantir le fait qu'on ne perde plus de surface de zones humide. Pour vous donner un chiffre, hein, entre 1960 et 1990, la moitié des surfaces de zones humides en France ont disparu. Elles ont disparu parce qu'on les a asséchées, parce qu'on les a urbanisées.
Parce que politiques publiques avaient des enjeux peut-être qui allaient à l'encontre de ces zones humides. C'est aussi un petit peu votre rôle maintenant à l'heure actuelle, c'est de prévenir ces politiques publiques, de leur dire écoutez, on comprend vos enjeux, mais il y a aussi ces enjeux-là pour le territoire et pour les gens, pour les habitants.
Oui, tout à fait. Ça, c'est les politiques d'aménagement du territoire. Et donc le département, au-delà de sa compétence relative à la préservation de la biodiversité, a aussi une compétence d'accompagnement des collectivités infradépartementales, c'est-à-dire les communes et les intercommunalités, dans leurs documents d'urbanisme. Et le document d'urbanisme, c'est un outil qui est essentiel pour préserver les espaces comme les espaces de zones humides.
C'est le mauvais rôle un petit peu à avoir, ce rôle-là, de dire « attends, là c'est peut-être plus compliqué de faire ça, c'est... »
C'est pas le mauvais rôle parce qu'on n'a pas le rôle de gendarme, on n'est pas l'État quand on est au conseil départemental, mais on a un rôle de conseil et d'accompagnement et d'alerte, mais on n'est pas là pour taper sur les doigts des collectivités. On est là pour interpeller les collectivités pour que nous allions tous dans le même sens, c'est-à-dire préserver le bien commun. Et le bien commun, c'est entre autres les zones humides.
Et les interpeller aussi par des slogans. Alors c'était le cas le 2 février parce que c'était la journée mondiale des zones humides. Il y a une journée mondiale depuis peu de ces zones humides et le thème était protéger les zones humides pour notre avenir commun. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'assurance vie avec ces zones humides ?
On peut dire ça, en effet, à la fois dans son rôle d'éponge, mais surtout dans son rôle de réservoir de biodiversité. Certains scientifiques disent que la biodiversité, c'est l'assurance vie de l'humanité, puisque l'humanité est un morceau de la biodiversité. Nous sommes des êtres vivants, d'une part, et donc en préservant la biodiversité, on se préserve soi-même. Et puis surtout parce que il y a nombre de médicaments qui sont connus aujourd'hui ou qui sont encore inconnus aujourd'hui, qui sont issus de la biodiversité. Je n'en citerai qu'un, l'aspirine. L'aspirine, on l'utilise tous. On a tous, à un moment donné, mal à la tête ou mal quelque part. L'aspirine vient d'une plante de zone humide qui, dans ses propriétés, a la propriété de l'aspirine. Oui. Et donc, si toutes les zones humides avaient disparu, nous n'aurions pas trouvé cette plante et nous n'aurions pas fait l'aspirine. Donc, on voit bien dans cet exemple-là l'importance assurantielle de la biodiversité et donc des zones humides.
Quel avenir on peut donner à ces zones humides d'ici dans la Nièvre ? Est-ce qu'on peut espérer avoir de plus en plus de zones humides qui seront préservées, qui seront aménagées peut-être aussi par le département ?
C'est compliqué comme question ça. Moi je suis d'un naturel assez optimiste, donc je dirais que grâce à la meilleure compréhension de l'ensemble des acteurs, les communes que je citais tout à l'heure, les intercommunalités, les habitants, les agriculteurs, les zones humides ont un bel avenir devant elles.
Il y a un objectif au département d'ailleurs sur 2026 par exemple, fin 2026 peut-être ?
Non, on n'a pas d'objectif quantitatif, vous voulez dire ?
Ouais.
Non, on n'a pas quantifié.
Il y a d'autres objectifs au-delà de quantitatif ?
Il y a un objectif qualitatif de préserver le plus de milieux naturels typiques de la Nièvre. Et dans ces milieux naturels typiques, il y a les zones humides. Et moi, je pense que la question du réchauffement climatique redonne d'une certaine manière des lettres de noblesse aux zones humides, notamment dans son rôle d'éponge et donc dans son rôle de surface dans lequel il y a, en pleine canicule, encore de la fraîcheur. encore de l'herbe qui pousse grâce
verte,
à
oui.
cette verte, tout
c'est
à
important.
Fait. Donc appétante pour le bétail, grâce à l'hygromorphie du sol.
Et on invite d'ailleurs les personnes qui nous écoutent à aller sur le site internet du conseil départemental qui explique très bien le rôle de ces zones humides et pourquoi c'est important de s'y intéresser un minimum et de comprendre leur intérêt, comment elles fonctionnent et pourquoi il faut les préserver, que ce soit partout en France. Et donc, on va être un petit peu chauvin, surtout chez nous, dans la Nièvre. Merci beaucoup, merci Stéphanie Robinet, merci à vous.
De rien, merci à vous.